jour, le reportage que nous allons diffuser a été enregistré lors de la manifestation du 17 septembre 2020 qui s'est déroulée dans les rues de Nantes.
Nous, dans le secteur aérien, alors moi je parle pour l'entreprise Airbus, hein, moi je suis salarié d'Airbus, et on a tendance à dire aujourd'hui que oui, en effet, les restructurations au sein de l'entreprise Airbus sont plus du fait d'un effet d'aubaine de la Covid, quoi. Parce qu'on peut dire aujourd'hui, oui, en effet, il y a une baisse d'activité, mais c'est une baisse d'activité de production. Ce n'est pas forcément une baisse d'activité ou une baisse du carnet de commandes. D'ailleurs, Airbus, aujourd'hui, a un carnet de commandes qui est supérieur avant Covid. Donc, on peut dire aujourd'hui que financièrement, Airbus va plutôt bien, mais au niveau production, il faut une réorganisation. On peut dire ça, en effet. Mais on dit aussi aujourd'hui que la direction d'Airbus a plutôt décidé et profité de l'instant de la Covid pour faire une restructuration.
Vous répondez à quel mot d'ordre pour vous retrouver dans la rue aujourd'hui à manifester ?
Je réponds déjà à l'appel de mon organisation syndicale, la CGT. Et puis aujourd'hui, on voit clairement que bon nombre d'entreprises décident aujourd'hui de faire des plans sociaux qui, à mon sens, n'est pas justifié. On a des capacités aujourd'hui, notamment au travers de l'activité partielle, qui pourraient sauver des emplois et bénéficier aux salariés. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Là aussi, et puis il y a moyen de faire autrement, il y a moyen de réfléchir autrement.
Comment faudrait bien réfléchir ?
Déjà, il faudrait reparler de l'activité industrielle dans notre pays, poser les vraies questions et le débat demain. Est-ce qu'on veut réindustrialiser notre pays ? Se donner les moyens de réindustrialiser notre pays ? Et ça demande aussi une volonté politique. Et je pense qu'aujourd'hui, la volonté politique, elle n'est pas là.
Est-ce qu'on s'inscrit aussi dans les questionnements de l'environnement ?
Je pense qu'il doit y avoir une réflexion, bien évidemment, sur l'environnement. On doit poser ces questions dans le débat public. Et puis, on doit avoir aussi un État et des financements qui soient là pour ça. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'on est sur du saupoudrage, sur une formalité d'aide, où aujourd'hui, on va donner énormément d'aide, mais sans contrepartie. Voilà, on ne se pose pas la question de l'avenir de demain. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Comment on va produire? Quel type de production on veut? Et qu'est-ce qu'on veut produire? Donc c'est toutes ces questions. Donner de l'argent, c'est facile, hein, mais faut savoir quoi en faire. Aujourd'hui, je pense que malheureusement, il n'y a pas de drive qui permet de dire que l'argent est utilisé à bon escient.
Est-ce qu'il faut donner la possibilité à tout le monde de pouvoir aller n'importe où dans le monde grâce à l'avion?
Je pense aujourd'hui qu'on a quand même des échanges parce qu'on est dans une économie mondialisée, comme on dit, quoi, voilà. Et donc il y a aujourd'hui des échanges qui se font entre les pays qui amènent et qui demandent un transport important aérien. Et je pense que passer à côté, ça serait quand même aussi difficile aujourd'hui de passer à côté de ça. Après, d'avoir une réflexion notamment sur le train et l'avion, parce qu'il y a une réflexion qui se fait sur ce sujet-là, notamment sur les déplacements de taille moyenne, disons, hein, peut-être des déplacements pour 2 heures d'avion est-ce bien utile, on a peut-être moyen de passer par le train, de développer la filière du train, là aussi c'est quelque chose qu'on a essayé de porter, et puis qu'on a essayé de détruire aussi, quoi. Mais je pense qu'il y a une vraie réflexion là-dessus, en effet, sur l'avion, ouais. Il y a une vraie réflexion.
Une entreprise doit-elle rester dans sa spécialité ou en fonction des différentes crises fabriquer d'autres produits comme par exemple des respirateurs artificiels?
Je pense qu'une entreprise elle doit en permanence réfléchir à ce qu'elle fait et à ce qu'elle peut faire demain. Enfin, c'est le but d'une entreprise, c'est d'anticiper et de pouvoir prévoir peut-être l'avenir et de pouvoir dans la recherche et développement préserver l'avenir et développer l'avenir. Donc c'est là aussi, c'est pareil. Je pense que c'est une réflexion de chaque instant, quoi. Dire que le Covid a mis en avant des entreprises en disant demain on va faire ça, des respirateurs, ça veut dire qu'il y a quand même un problème de gestion dans les entreprises. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en capacité de se poser la question du demain. Alors peut-être que c'est dû simplement, malheureusement, à une vision court-termiste qui est elle, posée et mise en avant par les actionnaires, tout simplement, parce qu'il faut du cash au maximum pour le profit, c'est tout. Et on n'a pas la réflexion du long terme, c'est un vrai souci.
C'est un petit rassemblement aujourd'hui,
oui,
comment on l'explique?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. On sort du Covid, Donc il y a quand même un sentiment de peur qui est quand même installé. Il y a aussi dans les entreprises, on voit très bien qu'aujourd'hui dans les entreprises, il y a quand même une forte pression qui est mise sur les salariés aussi, parce qu'il y a quand même la peur du licenciement ou des plans sociaux. Donc là aussi, c'est un facteur supplémentaire qui n'amène pas forcément facilité à se mobiliser, on le sent bien. Et puis aussi, bah forcément, il y a les gens qui sont payés depuis quand même un bon moment en chômage partiel, où on perd bien évidemment de l'argent, on n'est pas payé à 100%, donc se mobiliser aussi, là aussi, ça peut être un facteur qui amène pas forcément la mobilisation, parce que ça coûte de l'argent d'être en grève, bien évidemment.
On parle toujours d'impact financier, mais jamais oui. D'autres impacts.
Bah, l'impact psychologique, il est mis en place, comme on peut dire, par le patronat. Hein. Quand on met une pression sur les salariés dans le monde du travail, forcément, ça a des conséquences dans la mobilisation. Hein. Il est là, l'impact psychologique, je pense. Ouais. Je pense que les salariés, ils ont bien compris qu'on pouvait faire autrement. Et avoir vécu le confinement, ça a amené aussi les salariés à la réflexion, à dire demain, qu'est-ce qu'on veut pour demain. Je pense qu'il y a des idées qui ont émergé, qui vont faire leur chemin, mais ça prendra du temps. Et après, il y a la réalité du travail où les gens ils sont dans une pression sociale et dans une pression dans le travail qui fait que c'est compliqué de se mobiliser, en effet. Des fois, c'est compliqué.
Personnellement et psychologiquement, il n'y a pas de la démotivation.
On ne peut pas dire que les gens soient résignés ou soient démotivés. Je pense qu'il y a des attentes, il y a des envies, il y a de la réflexion qui a été émise depuis longtemps. Et je pense que les soucis sont là, les gens ils ont envie que ça bouge, mais pour le moment ils sont pas encore peut-être prêts à faire le pas, mais vous savez, il faut pas grand chose hein, des fois pour que ça explose. Hein. Et des fois ça vient souvent de quelque chose qui paraît dans un premier temps très futile, mais qui a toute son importance quoi.
Faut trouver un papillon à 30 000 km pour que ça déclenche.
Excusez-moi, je peux vous dire quelque chose ? Sincèrement, je suis un salarié qui a été embauché dans cette entreprise en 91. J'ai vu toute la privatisation, anciennement aérospatiale. Moi, là, j'ai pas grand-chose à vous dire, mais la seule chose qui me paraît importante de vous dire, et que la population l'entende clairement, nous sommes en 2019. Depuis 2001, la privatisation de l'entreprise, des dizaines de milliards d'euros ont été versés en dividendes aux actionnaires. Ces actionnaires, ils n'ont jamais construit les avions. Ce 72% de capital flottant, à part les 2% d'actionnaires qui sont des salariés, ces 70% de capital flottant, ils n'ont jamais construit les avions. Et maintenant, la crise du Covid n'a fait qu'accentuer la crise du capitalisme, sur le fond. Et maintenant, ça va être aux salariés de tomber dans la misère alors qu'ils ont construit cette entreprise. Alors on est toujours dans le même rouleau compresseur du capitalisme. Les actionnaires, ils ont empoché le pognon sans lever le petit doigt. Et maintenant qu'il y a un problème, ça va être aux salariés qu'on construit la boîte de payer ça. Mais ça c'est qu'on soit bien clair. C'est totalement inadmissible. C'est aux actionnaires de rendre 1 à 2% de ce qu'ils ont touché depuis 2001 pour maintenir les emplois, pour maintenir les salaires et pour faire que cette entreprise elle continue d'exister correctement. C'est ça, la réalité, c'est ça. C'est pas aux travailleurs d'aller payer ce qui est en train de se passer. C'est aux actionnaires de payer. Et pour arriver à ça, eh ben, il va falloir que les salariés d'Airbus ils gagnent une conscience de classe. Que sans eux, les avions, ils se font pas. Que sans eux, il n'y a rien qui tourne. Moi, ce que j'espère, c'est que bientôt, devant cette entreprise, on marquera avec une grande banderole, ici, changement de propriétaire, les richesses appartiennent à ceux qui les créent. Le chantage patronal perpétuel, il n'a fait que s'accentuer avec la crise financière du capitalisme. Et le Covid-19 a accéléré tout ça. Les travailleurs, il va falloir qu'ils retrouvent le terrain de la conscience de classe, de faire partie d'une classe, que sans eux, il n'y a plus rien qui tourne dans cette société. Quand ils auront retrouvé cette conscience de classe qui leur manque tant aujourd'hui, grâce à l'intelligence, c'est eux qui font tout tourner dans cette société. Il faut qu'ils prennent conscience que sans eux, il n'y a rien qui tourne. Que sans eux, la société, elle écroule. Et toute l'histoire du Covid-19 l'a bien montré. Sans les caissières, sans les éboueurs, sans les postiers, il n'y aurait plus rien. Tout se serait écroulé. Ce n'est pas les actionnaires qui sont allés gratter pendant le Covid-19 quand même. Donc, il va falloir que les salariés, autant chez Airbus que dans toutes les entreprises, que ce soit en France, en Europe et dans le monde entier, en fait, ils prennent conscience que sans eux, il n'y a rien qui tourne, qui sont véritablement essentiels. On est masqué, on doit rester masqué, c'est une chose importante, mais il ne faut pas hésiter à dire ce qu'on a sur le cœur, il ne faut pas hésiter à venir manifester, et il faut arrêter de croire que manifester, ça ne sert à rien. Manifester, ça sert à retrouver justement l'envie de comprendre que sans les travailleurs, il n'y a rien qui se fait. Et solidarité, on n'a jamais rien obtenu d'avantage et d'acquis en allant aux tables des négociations. François Mitterrand, tout le monde nous dit qu'il nous a donné la 5e semaine de congés payés. Il l'a donné et derrière, il a bloqué les salaires des fonctionnaires pour récupérer ça et donner ça au patronat. Les travailleurs, ils ont obtenu des droits grâce aux luttes. Point. Le reste, c'est du pipeau.
Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez aujourd'hui dans la rue ?
C'est un ensemble de choses, bien sûr. Moi, je suis prof des écoles. Et donc, ce qu'on vit en ce moment dans l'école et plus généralement dans la société, c'est ça qui nous pousse aujourd'hui. Enfin, c'est ça qui me pousse, moi, à venir aujourd'hui en particulier. Pour simplifier, alors si je pars de mon métier, ce qui me fait me mettre dans la rue aujourd'hui, c'est le manque de considération, l'impréparation, l'incohérence, la décharge de responsabilité du gouvernement et puis de notre ministre, à la fois sur le matériel, sur la différence entre la communication qu'il fait ou que le gouvernement fait et puis la réalité sur le terrain. C'est pour globaliser ça qui me fait venir ici aujourd'hui, moi.
D'accord. Mais est-ce qu'on peut donner un exemple concret quand on dit manque de préparation ?
Moi, j'aurais bien donné un exemple concret, mais plus par rapport au nombre de postes. C'est-à-dire que dans la situation de la rentrée scolaire de cette année suite au Covid, on a des pays comme l'Italie, par exemple, qui ont décidé de recruter massivement pour pouvoir permettre d'accueillir tous les élèves correctement en mettant en place des petits groupes. Voilà. Nous, dans notre système français, on avait quelque chose qui existait dans le premier degré qui s'appelait le plus de maîtres que de classes, qui permettait d'avoir un enseignant ou une enseignante de plus sur chaque école pour aider les élèves qui avaient le plus de difficultés. Ça a été supprimé par le gouvernement il y a un an et demi. Et là, ça aurait été le moyen de remettre finalement ces personnels-là qui manquent pour pouvoir justement redémarrer l'année et donner sa chance à tout le monde. Voilà. Donc il y a vraiment un manque en termes de nombre de postes. Et puis l'impréparation, oui, je pense qu'on peut donner un exemple aussi.
Ouais, c'est la communication du « tout est prêt », tout est prêt, nous sommes prêts ». Et puis on se rend compte, alors nous sommes prêts sur au niveau sanitaire, on va donner des masques, les conditions sanitaires pour les élèves et pour les enseignants sont bonnes. Et puis sur le terrain, on se rend compte que ce qui aurait pu être fait pendant l'été de réparation des sanitaires, par exemple, ou la réflexion sur un protocole sanitaire qui soit réalisable, ça n'a pas eu lieu. Les masques, on se retrouve avec le masque que j'ai là sur moi, qui est un masque finalement qui ne permet pas de ne pas être personne contact. Tout est prêt pour le ministre, mais rien n'était prêt sur le terrain, en fait. Voilà. Donc lui, il a donné un protocole, quelque chose de très large, qui devait être adaptée sur le terrain. Donc ça a demandé à tous nos collègues, ça nous a demandé une adaptation incroyable pour faire quelque chose qui finalement, sur le plan de la santé et de la sécurité sanitaire, peut être remis en cause parce que l'histoire de brassage, par exemple, ça ne se vérifie pas sur toute la journée de l'élève. Parce que les municipalités ou les collectivités n'ont pas la possibilité de le respecter sur le temps de la cantine, par exemple. Et puis ça se vérifie, voilà, je sais plus ce que je disais.
Non mais la question c'est, est-ce qu'il fallait organiser cette rentrée? Est-ce qu'il fallait encore un temps pour la préparer? Enfin, d'un point de vue à la fois pédagogique et puis financier peut-être?
Alors, il fallait l'organiser. Je crois que les élèves en avaient tous besoin. Les enseignants étaient contents de reprendre. Les parents étaient contents, je pense, que leurs enfants puissent se remettre dans le circuit voilà, de... On s'entend moins bien. Dans le circuit de l'éducation nationale. La question, c'est... même chose, quand on compare à des voisins européens, il y en a plusieurs qui avaient établi des scénarios plusieurs semaines en amont, que les équipes ont pu consulter. Et nous, deux ou trois jours avant la reprise, on a un protocole qui est changé. Donc, encore une fois, devoir tout faire dans la précipitation, ce n'était pas un bon signal. Voilà. Et après, au niveau des moyens, je parlais tout à l'heure de cette occasion ratée de pouvoir faire du travail en petits groupes. À la place, on nous propose des évaluations standardisées, mais qui ne sont pas adaptées. Alors qu'on soit bien clair, pour le grand public, les enseignants sont pour les évaluations. On en fait tous dans nos classes. Mais en général, ce sont des évaluations qu'on a construites nous-mêmes, qu'on pense adaptées aux classes que l'on a et que l'on corrige nous-mêmes. Et là, le ministre, c'est différent. Ce qu'il propose, il propose des évaluations que l'on n'a pas préparées, que l'on fait passer comme un technicien et que l'on ne corrige même pas nous-mêmes, que l'on rentre dans un ordinateur. Voilà. Et après, on a une recette miracle sur ce qu'on doit faire en classe avec des élèves. Voilà. Donc ça, on y est opposé à la FSU. Et on pense que la liberté pédagogique, c'est de laisser la personne qui a eu une formation être capable de savoir quels sont les outils les mieux adaptés à sa classe.
On peut poursuivre un petit peu, même en marchant, sur le cortège. Est-ce que vous avez mesuré l'impact de cette Covid sur le retard scolaire?
Si, parce que des élèves qui n'ont pas été scolarisés, il y a des mois de vacances à chaque fois qu'on... Le congé scolaire, ces deux mois, à chaque fois, ils ont un impact sur la façon de se comporter en classe, sur tout ce qu'il faut savoir faire avant de pouvoir apprendre, pour être en capacité d'apprendre. Donc effectivement, il y a des retards. Les élèves en CP aujourd'hui qui doivent être assis derrière une table pour respecter les distances, qui ont une évaluation standardisée à faire, quelque chose de très strict, alors qu'ils n'ont pas eu en grande section la préparation à ce... Enfin, comment expliquer ça de manière entendable de...
C'est-à-dire que leur année a été tronquée. Leur année a été tronquée, donc en effet...
Mais ça se rattrape ou ça se rattrape pas? Alors, il faut rajouter une année scolaire supplémentaire?
Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent se rattraper. Hein. La plus grande partie peut se rattraper. Mais maintenant, voilà, il faut que chaque enseignant puisse jauger en effet de où en est sa classe, chaque élève. Et ce n'est pas une réponse unique qui va permettre pour toute la France de savoir qu'est-ce que chaque enseignant va devoir faire pour son groupe classe.
Ça se rattrape avec des moyens, c'est-à-dire que effectivement, si les classes sont surchargées, si avec le Covid, comme les moyens n'ont pas été mis en face, là on est déjà en pénurie de remplaçants, donc ça va perdurer. La situation d'élèves sans classe, ça va perdurer encore. Et on n'est qu'au début, l'hiver n'est pas encore là, donc on sait qu'on... Là déjà, au bout de deux semaines, il y a déjà des classes qui ne sont pas remplacées. Donc on sait que cette situation elle va se poursuivre et que ça risque de surenchérir la difficulté qu'ont rencontré certains. Et puis les milieux familiaux ne sont pas les mêmes non plus. Donc chez certains, ça va se rattraper très vite parce qu'à la maison, en fait, il n'y a pas eu de coupure. Et puis d'autres qui sont éloignés depuis l'école depuis 5 mois, revenir là maintenant à l'école, au collège, au lycée, c'est compliqué. D'ailleurs, il y en a certains qui ne reviennent pas d'ailleurs.
Ce que je retire de notre conversation, c'est que le danger, c'est peut-être un néologisme, mais devant des professeurs, je peux me lancer, de l'algorithmisation des métiers. où finalement ce sont des algorithmes qui vous proposent des solutions et ça vous retire une certaine qualification.
Alors, on pourrait penser à ça prioritairement, mais n'oublions pas quand même, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, que finalement, derrière les préconisations qui vont ressortir de ces évaluations, il y a quand même, entre guillemets, la politique que Jean-Michel Blanquer veut essayer de faire passer, alors qu'il a déjà essayé de faire passer de différentes façons avant la crise du Covid, mais là, finalement, c'est quelque chose qui l'aide à pouvoir faire avancer sa vision de l'école, donc sa vision de l'école qui est surtout centrée sur une partie des sciences et une partie des neurosciences même, on pourrait dire, et qui n'est pas unanime dans tout le monde de la recherche en éducation, ni des milieux, je dirais, traditionnellement proches de l'éducation nationale ou de l'éducation populaire. Voilà. Et là, c'est un moyen, à nouveau, de faire recentrer le travail sur les fondamentaux, sur les maths et le français. Alors, il en faut, mais il en faut accompagné de toutes les disciplines qui sont actuellement dans les programmes. Voilà. Et là, on sent que c'est un moyen, en effet, de faire recentrer encore plus qu'avant tout ça sur les maths et le français.
Mais vous parliez d'algorisation, enfin je sais pas comment dire.
Oui, mais, c'est un néologisme, mais vous comprenez le sens.
Parce que la prolétarisation du métier d'enseignant, ça par contre c'est quelque chose de vérifié, c'est-à-dire qu'on devient des techniciens. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein. Il y a des projections qui sont faites par la Revue de Sèvres par exemple sur ce que sera le métier et l'enseignement dans les années qui viennent, le futur de l'éducation. Et la vision de Jean-Michel Blanquer, c'est ça, c'est-à-dire que il y aura des enseignants techniciens, une majorité. Alors, avec ça, il y a la réforme de la fonction publique aussi, et puis l'idée de suppression du statut, et puis de la contractualisation. Et cette idée, donc, des enseignants techniciens, puis des enseignants créateurs de savoir. Pour le créateur de savoir, il crée le contenu d'enseignement, et puis c'est le technicien qui va le diffuser. Enfin, c'est vraiment, quand on lit ces visions de l'éducation, c'est un choc incroyable. Un choc qui est favorisé par la situation sanitaire, parce qu'elle permet toutes les expérimentations. Quand Jean-Michel Blanquer met en place les deux S2C, donc en dehors de l'éducation nationale, sortir de l'éducation nationale des domaines qui lui étaient, alors pas réservés, mais qui sont des vrais sujets d'enseignement, ça fait partie d'une dislocation de ce que c'est que le service public et l'éducation nationale. Et c'est une vision vraiment... On est vraiment qu'au début, c'est-à-dire que notre métier, on va vivre un changement incroyable dans les 10 années à venir, et on est qu'au début, et on voit ce qui se dessine. Alors, il suffit de lire Jean-Michel Blanquer pour savoir jusqu'où on va aller, mais c'est vraiment le fait qu'il y ait eu la possibilité de l'école à distance, et que ça, alors on nous dit que ça a fonctionné, le dire que ça a fonctionné, c'est mettre de l'essence dans cette machine qui amène à la prolétarisation de notre métier, et puis à cette dislocation de l'éducation nationale.
Une petite clarification, si on lit Jean-Michel Blanquer, on voit où il voudrait nous emmener, mais bien sûr qu'on ne va pas le laisser faire. Hein. Donc déjà, il y a informer, être présent aujourd'hui, c'est une façon de pouvoir permettre au grand public d'entendre un petit peu certains griefs. Et après, il y a tout le travail de décryptage pour les collègues également. Hein. C'est-à-dire que nous, plus nombreux les prochaines fois.
Nous, enseignants, on ne se laisse pas faire parce qu'on sait quelle importance quelle importance à l'organisation qu'on a aujourd'hui et puis notre façon d'enseigner, mais il y a une logique de monétarisation de l'éducation qui est de plus en plus forte. C'est quand même un marché en devenir, c'est-à-dire que il y a déjà des offres par les grands éditeurs sur les évaluations standardisées pour les préparer, il y a des offres pour l'éducation à distance, enfin. Tout est en place pour vraiment disloquer l'éducation nationale, en faire, le privatiser finalement. Pas totalement d'ailleurs, puisqu'il y a la partie maths français, éducation populaire qui est quand même envisagée de conserver, puisque l'idée c'est d'aider ces pauvres gens à avoir au moins les maths, le français, pendant que tous ceux qui viennent de milieux sociaux où c'est possible puissent avoir accès à tout le reste. Donc l'éducation nationale, ce serait vraiment le parent pauvre, le français, les maths, et puis autour, ceux qui peuvent pourront aller plus loin.
Alors même pédagogiquement, ça ne tient pas la route, parce qu'on a un certain nombre d'élèves qui ont des fois eu un parcours qui ont fait qu'ils se sont construits un rapport aux maths et aux français un petit peu compliquée, hein, une image d'élève un petit peu compliquée. Et justement, tout un tas de disciplines connexes ou de projets interdisciplinaires leur permettent de se retrouver en réussite, d'avoir une revalorisation de leur image d'élève. Et quand on est enseignant dans le premier degré, on sait qu'on a besoin de tout ça pour aider à la réussite de chacun.
Vous dites, vous, les enseignants, le Covid ou la Covid?
Moi, je dis le Covid parce que c'est un virus. Voilà.
Le Covid.
Je n'aurais pas parlé parce que j'ai pas eu le réflexe de vous donner la parole.
Non, je laissais parler mes collègues. J'ajouterais juste une chose par rapport aux évaluations. Je pense que dans le contexte actuel, elles nous font sans doute perdre un temps précieux qui serait bénéfique d'employer ailleurs plutôt que de faire des choses par obligation.
La finalité, c'est pas d'avoir un instituteur ou des professeurs robots devant des petits élèves robots.
Oui, on pourrait dire ça. La finalité, c'est pas d'avoir en effet des petits robots, et encore moins des robots qui suivraient, comme je disais tout à l'heure, une seule orientation d'un courant des neurosciences qui pense que voilà, leur vision de l'apprentissage est la bonne, alors que jusqu'à présent, on avait plutôt une histoire au niveau pédagogique et didactique qui fasse qu'on se serve de la multitude des travaux qui ont existé. On a quand même beaucoup de chercheurs et de courants pédagogiques qui ont fait un travail remarquable. Hein, et voilà, là, on met tout de côté. Ce qui est pernicieux, c'est que c'est quelque chose dont on entend peu parler dans les grands médias, en tout cas, le fait que les mouvements complémentaires, par exemple comme le mouvement Freinet, les CMEA, les Franca, tous ces organismes-là, se voient finalement avec des dotations de l'État réduites drastiquement sous Jean-Michel Blanquer. Et également, tout un tas de chercheurs se voient finalement mis au placard, des gens qui intervenaient dans les formations au niveau des académies, par exemple les membres du GFEN, du Groupement Français d'Éducation Nouvelle, et d'autres. Voilà, ils ne sont pas bienvenus dans le monde de Jean-Michel Blanquer. Voilà.
Merci à
Jimmy, délégué syndical au sein d'Airbus Nantes.
Moi je suis Philippe, je suis un simple salarié de chez Airbus.
Et moi je m'appelle Johan.
Kevin.
Mathieu.
Pour leur libre participation à ce reportage, enregistré à Nantes lors de la manifestation du 17 septembre 2020. Pour information, l'Académie française recommande l'emploi du sigle Covid au féminin.